Passe la parole à Nathalie Wirt qui travaille à Nancy, au CHU de Nancy avec le professeur Martinez, c'est ça ? Et qui est quand même, tu vas dire un mot du congrès quand même Nathalie, puisque tu en es une des chevilles ouvrières importantes.
Donc oui, bonjour à tous, donc, je suis Nathalie Wirt et je participe cette année à l'organisation du congrès de la SFT, la Société Française de Tabacologie, donc un congrès national qui va se dérouler à Nancy les 17 et 18 novembre. Et vous pouvez trouver le programme sur le site internet, c'est comme congrès SFT 2011, vous aurez tout le programme et puis les possibilités d'inscription si vous êtes éventuellement intéressés. Donc moi, avant de commencer, je voulais également remercier le comité d'organisation du congrès et Didier Touzeau d'avoir pu permettre l'organisation d'un atelier de tabac sur le tabagisme, parce que c'est une addiction, effectivement, et pas la moindre, qui est souvent, encore trop souvent, oubliée et négligée. En particulier chez les patients VIH, qui est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Par rapport à la prise en charge, c'est des patients qu'on ne voyait pas jusqu'à très récemment en consultation spécialisée de tabacologie, mais qu'on commence à voir tout doucement. Ben pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que ces patients sont de plus en plus mieux traités par rapport à leur pathologie VIH, depuis l'introduction des combinaisons de traitements antirétroviraux qui sont très efficaces et surtout qui sont bien tolérés. Et donc on remarque là sur cette diapositive que depuis les années 97, depuis l'introduction de ces traitements, eh ben, l'espérance de vie chez ces patients a nettement augmenté et on note une mortalité divisée par deux. Certaines études, la Grabar en 2008, a mis en évidence que le taux global de survie à 3 ans après le diagnostic passait dans les années 93-95 de 44% à 83% en 2001-2003, ce qui est loin d'être négligeable. Donc là aussi, on voit dans d'autres études que l'espérance de vie à 20 ans, dans les années 96-99, passe de 36 ans à 49 ans en 2003-2005, et l'espérance de vie à 35 ans passe de 25 ans à 37 ans en 2003-2005. Donc les causes de mortalité qui étaient souvent au départ liées à leur pathologie propre VIH, sont apparues différentes au cours du temps depuis cette prise en charge qui a été améliorée et il apparaît de plus en plus que le tabac est un facteur de risque indépendant de problèmes qui apparaissent chez ces patients qui sont bien traités pour le VIH. Alors ce tabagisme a été étudié notamment par l'équipe de Bénard de Bordeaux qui concerne enfin, l'étude de la prévalence du tabagisme chez ces patients qui observe que la majorité de ces patients, quasiment 50%, je vous rappelle que dans la population générale, on est plutôt autour de 30% de fumeurs actuellement, chez les patients VIH, c'est plus, 50% de ces patients, 1 sur 2, est fumeur régulier, donc en général fumeur dépendant. Ça concernait une cohorte de 2036 patients environ. Et il a noté également une augmentation de la prévalence chez des patients plutôt contaminés par drogue, par injection IV, et une augmentation de la prévalence, comme dans la population générale, chez les jeunes, hein, entre 30 et 40, 45 ans, avec diminution avec l'âge, sauf aussi chez les patients contaminés par IV. Et contrairement à la population générale, la prévalence est identique chez les hommes et chez les femmes. Donc ces patients infectés par le VIH sont très exposés à certaines complications. En premier lieu, les maladies cardiovasculaires. Ce qu'il faut savoir en France, c'est que les maladies cardiovasculaires représentent la quatrième cause de décès chez ces patients infectés par le VIH. Et il a été mis en évidence que la fréquence de ces maladies est plus élevée, notamment à cause de la présence de facteurs de risque par le biais de consommation de produits tels que le tabac et la cocaïne, mais également liées à l'exposition aux antirétroviraux qui peuvent avoir des conséquences au niveau cardiovasculaire et aux effets propres de l'infection VIH qui également peut avoir des répercussions au niveau cardiovasculaire. Donc ça fait plein de facteurs de risque cumulés, dont le tabac qui pourrait être évitable. Là aussi, on remarque dans certaines études, là, une étude qui a été publiée dans le New England Journal, que les combinaisons de traitements antirétroviraux induisent par eux-mêmes déjà des perturbations métaboliques de type dyslipidémie, insulinodérésistance, diabète et augmentent le risque de survenue d'événements cardiovasculaires de l'ordre de 26% environ par année de traitement supplémentaire. Donc le tabagisme apparaît comme un facteur de risque modifiable d'infarctus du myocarde le plus important devant les combinaisons de traitements antiviraux avec un risque relatif de 1,7 comparativement aux non-fumeurs. Par rapport au risque bronchopneumopathie chronique obstructive, les BPCO, là aussi, les études montrent une augmentation de la fréquence de survenue de BPCO chez les patients infectés par le VIH, avec souvent une survenue de BPCO à un âge plus jeune que chez les fumeurs non infectés, et ce, indépendamment de la quantité de tabac fumé. Et il semblerait également que l'emphysème soit plus particulièrement fréquent chez les patients infectés par le VIH, et donc à un âge plus précoce. Une autre complication qui est souvent très fréquente chez les patients infectés par le VIH sont les pneumopathies bactériennes pulmonaires. C'est une cause majeure de morbidité chez ces patients. Là, les facteurs de risque sont l'âge, la contamination par injection intraveineuse, le sexe et l'immunodéficience induite par le VIH. Et on retrouve également le tabac, avec un risque de survenue de pneumopathie bactérienne pulmonaire augmenté chez les patients VIH fumeurs. Et un bénéfice de l'arrêt du tabac au-delà d'un an qui a été mis en évidence toujours dans les études de Bénard. Quel que soit le niveau de l'immunodéficience, il a mis en évidence qu'on obtient une incidence de survenue de pneumopathie de 16,5 pour 1000 patients années chez les fumeurs, qui diminue après l'arrêt du tabac à 7,9, donc quasiment de moitié pour 1000 patients années chez les anciens fumeurs. Et pour information, chez les non-fumeurs, on est autour de 6,5 pour 1000 patients années. Donc des bénéfices importants et rapides de l'arrêt du tabac. Concernant le risque cancer, en particulier cancer bronchopulmonaire, qui est le plus fréquent des cancers non classant SIDA chez ces patients infectés par le VIH, on observe que le risque dans la population infectée est augmenté également de l'ordre de 2 à 6 fois plus élevé que celui observé dans la population générale du même âge et du même sexe. L'immunosuppression semblerait être un facteur de risque indépendant du tabac par rapport à ce risque, et les patients infectés par le VIH seraient également atteints plus jeunes par ce cancer, à 45 ans, alors que dans la population générale fumeuse, c'est plutôt vers la soixantaine, et la majorité, ça aussi, comme dans la population générale, sont fumeurs de l'ordre de 90 à 100%. Donc, par rapport à la mortalité, on observe que depuis l'introduction des combinaisons antirétrovirales, la population vieillit, hein, parce qu'elle est bien prise en charge sur le plan VIH. On observe, d'après plusieurs études, qu'il n'existe pas de relation entre le tabagisme et la progression clinique de l'infection par le VIH. Apparemment, le tabagisme ne retentit pas à ce niveau-là. Que le risque, par contre, de comorbidité augmente, notamment par rapport à toutes les pathologies non classant SIDA, et que la mortalité, toutes causes confondues, chez ces patients infectés par le VIH est plus élevée chez les fumeurs versus non-fumeurs, mais que la mortalité liée en particulier au sida ne diffère pas entre fumeurs et non-fumeurs. Donc le tabagisme n'a pas de répercussion sur la maladie sida, mais à d'autres comorbidités qui sont importantes et qui entraînent la mortalité chez ces patients infectés. Donc concernant le tabagisme de ces patients, là aussi on retrouve différentes études. C'est une étude qui est parue en 2009 qui met en évidence que la majorité, et ça on l'observe également dans la population générale, la majorité de ces patients, l'ordre de 58 à 66%, voudraient arrêter la consommation de tabac. Une majorité d'entre eux également ont essayé, mais comme dans la population générale sans aide, très peu y parviennent. Et il semblerait aussi, dans cette étude, l'auteur pense que, enfin, dit que le sevrage tabagique serait plus difficile à obtenir chez les patients fumeurs VIH, infectés par le VIH, versus les patients fumeurs non infectés par le VIH. Cependant, d'autres études montrent que l'annonce, rien que l'annonce du diagnostic chez un patient peut être quelquefois associée à un arrêt spontané ou à une diminution de la consommation de tabac. D'autres études, là, c'est Bénard, toujours à Bordeaux, montrent que, comme dans la diapositive précédente, la majorité des fumeurs réguliers infectés par le VIH avaient déjà essayé d'arrêter de fumer, et la moitié d'entre eux dès l'annonce du diagnostic. Donc ça, c'est une motivation souvent importante pour ces patients, qu'une majorité, 60%, présente une dépendance moyenne, voire forte, qui complique donc l'arrêt du tabac, et qu'on observe chez un certain nombre d'entre eux une consommation excessive. Alors, lui, dans l'étude, excessive veut dire pour le cannabis consommation quotidienne. Donc, cannabis 23% consommation quotidienne, en sachant aussi qu'une consommation régulière, donc non quotidienne mais régulière, peut être problématique, mais qui n'a pas été analysée dans cette étude, n'est pas mentionnée. Et une consommation excessive d'alcool dans cette étude veut dire homme supérieur à 3 verres par jour, femme supérieure à 2 verres par jour, représente 12% des patients. Et il observe également une prévalence plus importante de symptômes dépressifs chez ces patients affectés par le VIH, de l'ordre de 50%, 1 sur 2, ce qui est pas mal. Reynolds, dans une autre étude là, qui est parue en 2009, donc, analyse un peu les facteurs qui pourraient compliquer cette prise en charge du tabagisme chez les patients. Et donc, en les listant, il montre que la consommation d'autres produits psychoactifs, alcool, cannabis, peut compliquer la prise en charge. Et ça, on le sait, hein, on le voit déjà dans la population fumeuse lambda. Qu'une comorbidité psychiatrique associée complique également la prise en charge. Il met également en évidence chez ces patients souvent une mauvaise connaissance encore des risques liés à la consommation de tabac. Donc ces patients sont souvent encore mal informés sur les risques liés à cette consommation. Une motivation quelquefois encore insuffisante. Une mauvaise observance thérapeutique qui caractérise un peu ces patients en général. Un milieu social défavorisé qui peut compliquer également l'arrêt du tabac. Et on en a parlé tout à l'heure, le non-remboursement des traitements qui peut être un frein pour ces patients, surtout quand on associe milieu social défavorisé et ainsi de suite, ça peut être un frein important. Donc, par rapport au traitement du tabagisme, dans la bibliographie, on retrouve peu d'études qui évaluent les traitements de la dépendance au tabac, spécifiquement chez les patients affectés par le VIH. J'ai trouvé, par exemple, pour les substituts nicotiniques, plusieurs études confirment la faisabilité du sevrage tabagique chez ces patients par le VIH à l'aide d'un traitement substitutif nicotinique. Il semblerait pourtant qu'une prise en charge plus intensive associant traitement pharmacologique et thérapie comportementale soit encore plus efficace. Et d'autres études sont encore en cours, notamment aux États-Unis, toujours par rapport à l'efficacité des traitements substitutifs nicotiniques. La varenicline est actuellement étudiée spécifiquement aussi dans cette population. Notamment, on étudie la tolérance et l'efficacité de la varenicline. En France, ça fait l'objet du protocole interactif qui est encore en cours, donc les résultats ne sont pas disponibles. Et aux États-Unis, apparemment, il y a une étude également qui est en cours, spécifiquement donc varenicline chez les patients infectés par le VIH. Concernant le bupropion, là aussi, pas grand-chose, en sachant que pour le bupropion, il existe beaucoup d'interactions médicamenteuses, en particulier avec certains traitements antirétroviraux. Il semblerait, et ça a été mis en évidence dans une série d'études chez des volontaires sains, que le ritonavir ou l'association ritonavir-lopinavir entraîne une diminution dose dépendante d'environ 20 à 80% de l'exposition au bupropion. Et ces données donc suggèrent un effet inducteur sur le métabolisme du bupropion. Et ça pourrait nécessiter des adaptations de doses plus élevées, en sachant que la dose maximale recommandée ne doit pas être dépassée pour le bupropion. Donc difficile à utiliser, je pense, chez ces patients-là et, hein, par rapport aux autres traitements. Donc en conclusion, les comorbidités et la mortalité liées au tabagisme sont de plus en plus fréquentes chez une population qui vieillit. Le sevrage tabagique est effectivement quelquefois plus compliqué, mais pas forcément impossible, et on en a parlé tout à l'heure. On peut leur proposer des étapes par le biais de réduction de consommation dans le cadre d'une réduction de risque avec un traitement, histoire de les familiariser au traitement, histoire de les motiver, de faire mûrir la motivation au cours du temps pour arriver et avoir toujours comme objectif un arrêt total du tabac. Mais ça peut être des étapes, effectivement, c'est des prises en charge longues. Mais le tabagisme, on le sait, c'est une maladie chronique, comme les autres addictions. Donc, il est intéressant de proposer, je pense, une prise en charge médicale spécialisée et surtout pluridisciplinaire, en travaillant avec des psychiatres, s'il faut, puisque 1 sur 2 a des problèmes de cet ordre-là, qu'il faut prendre en charge, je pense, de façon correcte. Et par contre, il reste encore des recherches cliniques à faire, nécessaires, spécifiquement ciblées sur ces patients, qui pourraient encore améliorer leur prise en charge. Merci beaucoup.
On a le temps pour une ou deux questions, si vous voulez, ou alors sinon on passe tout de suite à l'exposé de Brigitte Benezache. Non, c'est vrai que le temps qu'elle s'installe, c'est vrai que c'est des questions importantes, ces liaisons, ces traitements au long cours qu'on met en place sans forcément prendre en compte le problème du tabac. Je repensais à l'hépatite C et à l'interféron qu'on met de temps en temps en place et qui pourrait intervenir sur les troubles dépressifs. Yvan, tu voulais faire une remarque ?
Pas mal de patients en VIH, étant donné que la Salpêtrière suit des patients avec VIH via un gros centre. Ils m'envoient les patients, ils viennent la première fois et plus jamais. Alors, c'est tout bien, mais comment faire qu'ils reviennent? Ils sont tous très très atteints psychiquement, ou ils sont tous sous pratiquement tous sous antidépresseurs, sous neuroleptiques. Avec des effets indésirables, donc tissu adipose, redistribution due aux antiviraux. Ils viennent la première fois s'ils viennent, et après, comment faire qu'ils reviennent?
Ouais, alors là, Yvan, j'ai pas de recette, j'ai le même problème. Effectivement, il y a beaucoup de pertes de vue. Mais il semblerait que c'est vrai que c'est des patients qui sont souvent sollicités déjà par les services de maladies infectieuses, qui sont obligés de revenir régulièrement pour des traitements, et puis il semblerait que le tabac en plus, ça fait des fois beaucoup de choses pour eux. Alors nous, à Nancy, on essaie de combiner les rendez-vous avec le service de maladies infectieuses, de faire que le patient qui vient en hospitalisation de jour, c'est souvent le cas pour le bilan, je sais pas, qu'ils font tous les quelques mois, bah on associe une consultation de tabac à ce moment-là pour pouvoir justement les tenir, quoi. Et mais c'est vrai que c'est difficile. Hein.
Bon,